Radio Spirale. La question des demandeurs d'asile est le plus souvent traitée du point de vue politique ou citoyen, mais plus rarement dans sa perspective psychologique. Ils ont pourtant souvent vécu des traumatismes violents, en plus du déracinement qu'impose l'exil. Pour en discuter, la librairie Olivieri réunissait en septembre 2012 les auteurs du livre « L'instant du danger », soit le psychanalyste Michel Peterson et le photographe Charles-Henri Debeur, de même que le psychanalyste Joël Desrosiers. La rencontre était animée par Georges Leroux.
Alors bonsoir à tous. Merci d'être là, si nombreux, intéressés certainement par le travail de notre ami Michel Peterson et de son complice Charles Debeur, mais aussi par un sujet aussi grave, aussi prégnant dans la société qui est la nôtre. Vous avez tous lu le journal d'aujourd'hui, ou est-ce celui d'hier, mais enfin il se ressemble sur ce sujet-là, le journal où on nous apprend que le gouvernement canadien a plus de 10 000 dossiers d'immigrants qui sont littéralement poursuivis avec une sorte de mécanisme inquisitorial, les accusant de fraude et tout. Alors, le contexte canadien du sujet que nous abordons ce soir est un contexte qui ne manque pas de réalité. Et donc, je suis très heureux d'animer cette rencontre à la demande de mon ami Michel Peterson. Je salue tous ceux qui, provenant de divers milieux, psychanalystes, travailleurs sociaux, immigrants, qui sont ici présents, donc nous font le plaisir d'assister à ce lancement. Alors, mon nom est Georges Leroux, je suis très content de vous accueillir. Avant de nous lancer dans notre échange, je voudrais rappeler qu'à l'issue de cette rencontre, l'éditrice de l'ouvrage, les éditions du Passage, Madame Juliette Duchâtel, vous adressera la parole, mais elle me prie de vous dire que à l'issue, donc à la sortie, au moment où nous aurons terminé, le livre sera bien sûr mis à la vente et Michel et Charles seront heureux d'autographier des exemplaires. C'est donc important pour le lancement du livre. Alors, un mot d'abord, peut-être rapidement, sur les auteurs, avant de leur donner la parole. Michel Peterson, nous le connaissons bien, il est psychanalyste, il est professeur de littérature, il a d'ailleurs une formation en littérature comparée. Il a été étudiant et professeur dans plusieurs universités, notamment en Pologne, terre qui lui a été heureuse puisqu'il a consacré, comme vous le savez, sa thèse de doctorat à un sujet polonais. Mais de là, Michel a beaucoup bougé. Il est allé beaucoup vers le territoire latino-américain. Il a enseigné au Brésil, en Argentine. Et c'est à partir, je pense, de cette expérience, il saura nous le dire, qu'il a développé ce travail comme analyste, comme travailleur social, dans l'écoute de ceux qui, arrivant au Québec et au Canada, viennent non seulement de l'étranger, mais ont traversé l'expérience d'un traumatisme effrayant et qui ont quelque chose à nous dire et qui doivent être entendus. Puisque la grande leçon du livre, je l'ai lu, vous le pensez bien, c'est d'abord et avant tout un appel à l'écoute. C'est un livre remarquable sur la question de l'écoute. Or, ce livre, donc, témoigne de l'engagement de Michel Peterson au service de ses nombreux... Comment il faut les appeler? Michel va nous le dire, il y a beaucoup de mots qui circulent, mais enfin, de ces personnes qui sont en déplacement, qui sont inscrites dans un processus que parfois il aime décrire avec le vocabulaire de Jacques Derrida, philosophe qui est très présent dans ce livre, de destinérance, c'est-à-dire dont le destin est inscrit de manière à la fois maléfique et bénéfique dans une errance qui les a amenés sur nos rives. Michel a beaucoup écrit, il est l'auteur de plusieurs études, sa bibliographie est très importante, il a publié sa thèse de doctorat, il a publié des choses dans plusieurs langues. Je voudrais signaler qu'il a dirigé un très beau dossier sur le sujet dans la revue Spirale, Passage des frontières, donc un numéro qui passe en revue un certain nombre de livres sur ces questions. Alors, ce livre a une caractéristique tout à fait particulière puisqu'il est le fruit d'une collaboration avec un photographe, M. Charles Deber, qui est ici et qui est donc photographe engagé lui aussi, on pourrait dire, dans le travail social, dans la rencontre avec cet autre toujours à la fois indéfini et précis qui est devant nous. Alors, quand vous feuilletterez l'ouvrage, et on va demander à Charles de nous dire un peu comment il perçoit sa collaboration au livre et comment tous les deux l'ont construit, quand nous irons à la rencontre de ce livre, ce qui ne saurait tarder, il pourra donc préciser son travail. Je signale en terminant que, alors bon, oui, Joël, parfait, tu arrives à point nommé. Alors le dernier larron de notre table est l'écrivain Joël Desrosiers qui se joint à nous donc et qui lui aussi, vous connaissez son œuvre, est une œuvre inscrite dans ce grand récit de la migration, migration poétique, migration littéraire aussi dans son cas. Alors, on va commencer peut-être en demandant à Michel de nous présenter son livre, de nous dire un peu le contexte de cet ouvrage, comment le projet de ce livre est né. Vas-y, Michel.
Voilà. Écoutez, avant de vous dire quelques mots là-dessus, je voudrais tout de même, je ne serais pas comme on fait dans les galas, de cinéma ou d'humour, mais je veux quand même remercier, donc je vais être relativement court, mais je veux quand même remercier un certain nombre de personnes. D'abord, en premier lieu, surtout, les personnes qui ont, les demandeurs d'asile, les réfugiés, les gens qui sont dans des situations d'exil forcé, qui ont accepté de se prêter au jeu, qui ont accepté de se faire photographier. La plupart de ces personnes-là n'avaient eu comme photo ou n'avaient conservé comme photo que des photos d'identité, hein, des photos de prisonniers ou des photos, hein, vous l'imaginez, dans des situations de ce type. Alors, ça a été, et pour Charles-Henri et pour moi, une expérience particulière et de faire en sorte que ces personnes sortent de l'anonymat, hein, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est des gens qui sont, de façon générale, sauf quand un cas est porté à l'attention des médias pour toutes sortes de raisons. Donc, ce sont des personnes qui ont décidé de sortir de l'anonymat et qui, j'y insiste, il ne faut pas dramatiser les choses, mais qui, pour plusieurs, prennent des vrais risques. Prennent des vrais risques pour eux. Certaines de ces personnes sont en attente de statut depuis 5, 6, 7, 8, 9 ans. Ça veut dire sans papier, à toute fin pratique. D'autres personnes sont dans des situations qu'on peut qualifier d'apatrides. Bref, il y a toutes sortes de cas de figure comme ça, mais surtout, ce sont des personnes qui ont décidé de prendre ce risque et de dire quelque chose de leur expérience, et aussi donc en disant quelque chose de cette expérience, de leur expérience, de transmettre quelque chose. Et pour moi, tu parlais, Georges, de parole. Donc, devant une espèce de folie, de traumatisme, de catastrophe, bref, de toutes sortes de situations où la pulsion de mort prévaut de façon, je dirais, presque souveraine. Donc, c'est des gens qui ont décidé, en le sachant, d'aller contre cette pulsion de mort et d'essayer de transmettre quelque chose. Le dernier petit texte de ce livre s'appelle « Pour la suite du monde », avec la référence à qui vous savez, évidemment. Donc, c'est bien de ça qu'il s'agit, de leur donner la parole et de leur donner aussi un visage. Ça, c'est extrêmement important. Donc, voilà, je les en remercie. Je ne vais pas les citer tous, évidemment. Il y en a plusieurs ici. Je les remercie vraiment d'être ici. C'est très important. Je veux aussi remercier, évidemment, Georges, Joël, d'avoir accepté de nous accompagner, Charles-Henri et moi. Georges, je lui ai demandé de m'accompagner, de nous accompagner, parce que, en particulier, il a réfléchi beaucoup à ces questions, d'une façon peut-être latérale, transversale, mais il a écrit ce livre, en se dirigeant ce colloque, Le devoir de mémoire, donc qui faisait écho tout à fait au type de travail que j'essaie de faire. Et Joël, qui est lui-même un passeur au sens propre et au sens figuré. Bon, bref. Alors voilà, et je remercie évidemment, et j'arrête ensuite parce que sinon vous comprendrez que ça ne finirait plus, mais je remercie vraiment mes éditeurs, mes éditrices dans ce cas, qui ont accepté d'accompagner, de prendre avec elles ce projet, la graphiste. Julia, Julie, Simone, qui fait un travail remarquable pour diffuser, faire connaître ce livre. Alors voilà. Alors je m'arrête là-dessus. Il y a sans doute plein de gens que j'oublie, mais bon. Alors, qu'en est-il de ce livre? Je vais y aller au plus important pour le moment, et on pourra ensuite déplier les choses si nécessaire. Bon, c'est d'abord un livre de sensibilisation. Sensibilisation dans deux sens. Sensibilisation, évidemment, au sens courant, c'est-à-dire d'alerter, si je puis dire, le grand public quant à la situation, quant à l'existence même de ces demandeurs d'asile et de ces réfugiés. Plusieurs ont été victimes de violences, ce qu'on appelle la violence organisée sous différentes formes, torture et autres. Mais c'était un élément extrêmement important de rendre présent cette question-là auprès de la population. Bien sûr, il y a des spécialistes, travailleurs sociaux, avocats, juristes, médecins, psychiatres, psychanalystes, plusieurs intervenants qui connaissent la question, mais je pense que c'était important de faire déborder la question sur un auditoire plus large. Dans un sens plus complexe de sensibilisation, il s'agissait de dire et de redire, parce que c'est une chose qui n'est pas tellement véhiculée, que la violence organisée est une expérience qui met en cause le sensible. Ça, c'est une expérience évidemment corporelle, physiologique, mais c'est une expérience psychique dévastatrice qui parfois paralyse. Et donc, sensibiliser, c'est vraiment rendre sensible au fait qu'il y a là du sensible. Ça me semblait un point extrêmement fondamental. Donc, voilà pour la sensibilisation. Comme vous voyez, je vais au plus pressé. Maintenant, il y a d'autres objectifs, évidemment, de ce livre. Le premier, c'est de relier la question de la clinique des états de stress post-traumatique, parce que c'est d'abord un livre de clinicien. C'est un livre, évidemment, qui a des enjeux politiques. Bien sûr, on ne peut pas prendre la parole sur cette question sans être impliqué politiquement. Mais l'idée était de relier cette clinique aux faits politiques. Aux faits politiques, j'entends pas aux événements au sens banal du terme. J'entends le fait que Anna Arendt disait que les réfugiés sont l'avant-garde des peuples. Et je pense que c'est une formule extrêmement importante dans la mesure où ils sont effectivement l'avant-garde des peuples, dans la mesure où ils annoncent et ils désignent toutes sortes de symptômes politiques, psychiques, de ce qui est en train de se passer sur la planète. Le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies dit que d'ici environ 20 ans, il y aura 650 millions de déplacés. C'est un chiffre assez hallucinant quand on y pense. Évidemment, il y a des déplacés internes, mais c'est des déplacés pour toutes sortes de raisons. Déplacés, je prends ici le terme dans sa généralité, ça inclut les demandeurs d'asile, les réfugiés, de toutes sortes, les apatrides. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est lié à des problèmes économiques, à des problèmes écologiques, à toutes sortes de problèmes. Et en général, quand on parle des demandeurs d'asile et des réfugiés, on isole cette question-là à une question psychiatrique. psychiatrique ou clinique. Ou, on réduit en faisant l'impasse, en fait, sur, pour le dire d'un mot, sur l'histoire qui est en train de se jouer devant nous. Alors ça, je suis parti d'un principe très simple, c'est que nous sommes dans une guerre totale, dans une guerre contre les démocraties, dans une guerre contre les sociétés civiles. Et je pense que les gens qui ont participé à ce livre disent quelque chose de cette guerre sous toutes sortes de formes. Il y a aussi une prise de position politique, et puis je vais m'arrêter là-dessus, ensuite on pourra discuter. Il y a aussi une prise de position politique, Georges le mentionnait, comme vous le savez, il y a une loi qui a été passée, le 28 juin ou le 29 juin dernier, la loi C-31, qui a eu des effets directs sur le sort des réfugiés, et il y a quelque chose de très intéressant. La loi s'appelle comme ceci, « Loi visant à protéger le système d'immigration du Canada ». Ah, il ne s'agit pas de protéger les demandeurs d'asile et les réfugiés, il s'agit de protéger le système d'immigration. Et dans ce cadre-là, tous les services, j'y travaille encore, qui s'appelle le RIVO, le Réseau d'intervention auprès des personnes qui ont été victimes de violences organisées. Cet organisme qui est né en 1993 est en situation actuellement de survie. Est en situation de survie pourquoi? Parce que les effets de la loi C-31 font en sorte que les fonds qui étaient destinés à payer les frais des cliniciens qui demandaient de l'aide, des cliniciens qui aident les gens qui faisaient une demande de suivi psychothérapeutique, ont été, à toute fin pratique, réduits à zéro. Ce qui fait que les demandeurs d'asile actuellement, sauf s'ils sont capables de débourser eux-mêmes, mais vous aurez compris que la précarité de plusieurs d'entre eux fait en sorte que c'est à peu près impossible de débourser, ce qui fait en sorte qu'ils n'ont plus d'aide psychologique pour la plupart, et ils ont très peu d'aide médicale, sauf si leur situation fait en sorte que ce dont ils souffrent, c'est d'une maladie qui est transmissible et donc il y aurait un danger pour les citoyens canadiens. Bref, ces gens-là se sont vus tout à coup, comme l'organisme dont je fais partie, se sont vus tout à coup privés de service. Et ça me semble tout de même assez grave. Ça me semble tout de même assez grave, d'autant plus qu'il y a actuellement une propagande importante du gouvernement canadien, dont ce que Georges mentionnait est un des éléments, mais on pourrait en mentionner plusieurs. Alors, c'est dans ce contexte-là que ce livre, je l'ai fait, c'est un livre... Écoutez, c'est un livre de clinicien, d'abord et avant tout. Je le répète parce que c'est pas un livre de juriste, c'est pas un livre de psychiatre, c'est un livre de psychanalyste. Hein, et comme je le disais au départ, ce qui est pour moi la grande question, au fond de tout ça, c'est comment fonctionne la question de la pulsion de mort dans nos sociétés actuelles. C'est ça qui est l'enjeu fondamental pour moi. Quelles sont les modalités au moment où les États-nations sont en train d'être redéfinis, je prends le mot avec guillemets, mais au moment où au génocide qu'on connaît font écho des géocides, c'est-à-dire une redistribution des frontières, une transgression des frontières, une redéfinition des espaces, des notions comme celle de territoire, bon, etc., etc. Ça a des effets très, 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 très graves, très importants sur les populations qui sont en déplacement constant. Alors, c'est un peu tout ça. En même temps, et je pense que je passerai la parole à Charles-Henri à ce moment-là, en même temps, c'est un livre que nous avons voulu très intime. Alors là, j'ai donné une image un peu géopolitique, géopsychanalytique de l'ouvrage, mais c'est aussi un ouvrage, et les photos en témoignent, où nous avons été chez les gens, c'est-à-dire dans leur cuisine, tout bêtement, dans leur salon. Et ça a constitué une expérience de contact et de discussion et d'échange qui a été... j'irais, et pour Charles-Henri, je pense que tu seras d'accord, et pour moi, quelque chose de très particulier, d'autant plus que Je tiens à dire tout de même que la grande majorité des personnes, sinon presque toutes, la grande majorité des personnes ne sont pas mes patients. Vous aurez compris que c'était extrêmement fondamental que ce ne soit pas des patients. Donc, c'est des gens que j'ai rencontrés à travers des avocats, à travers des travailleurs sociaux, à travers différents réseaux, et qui tenaient à dire quelque chose de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont expérimenté, mais sans tomber dans le tragique et dans le spectaculaire. Voilà. Alors, on pourra revenir.
Un petit mot peut-être pour vous présenter l'ouvrage, et ça va permettre à notre ami photographe de dire un peu comment il perçoit son travail. Le livre, en fait, vous le verrez tout de suite en le feuilletant, est composé de trois catégories d'interventions. Il y a d'abord, bien sûr, 6 blocs de texte portant sur les grands problèmes, les grandes conceptualités de la situation analytique face à la migration. Ça va des concepts de la guerre jusqu'à ceux du stress post-traumatique, la survie, tout ça. Bon, alors ça, c'est le texte, en quelque sorte, de Michel qui traverse le travail. Mais il y a aussi une deuxième catégorie, c'est une liste, c'est un fichier, en fait, assez sec. On pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire qui vraiment ne cherche pas à proposer une description émouvante ou pathétique des situations. Un lecteur profane comme moi, par exemple, quand j'ai lu la liste des personnes, donc des réfugiés, etc., qui sont là-dedans avec leur photo passeport ou à peu près, et le court récit de leur vie, la chose la plus intéressante, la plus difficile aussi à comprendre, c'est la conclusion qui arrive au bout de ces paragraphes. Refuser, ça veut sans doute dire que la personne est dans une situation impossible. Évidemment, résident, c'est un autre statut. Citoyen, c'est autre chose. Alors, il y a plusieurs destins qui sont tout simplement étiquetés avec une sanction, et on sait ce que, par exemple, la sanction refusée peut vouloir dire après 10 ans parfois d'attente. Alors, et la troisième catégorie, alors c'est Charles-Henri, il va nous parler de son travail. Il y a un dossier photographique où chaque personne reçoit donc plusieurs images. Alors vas-y. Qu'est-ce que tu as voulu faire?
La marche est haute. J'ai pas terminé mon bac en animation et recherche culturelle, malheureusement. Mais bon, ça ne limite quand même pas l'extension de mes pensées. Mais par où commencer? Moi, ma démarche, je la regarde évoluer. Je la subis cependant pas. C'est peut-être un luxe. Je me propose davantage de voir les autres s'enquérir et me dire où eux trouvent que où s'en va ma démarche. Il y a un paragraphe important à ce sujet-là vers la fin du livre qui traite de vérité. Comment vous expliquez ma vérité? Vous allez la comprendre selon votre vérité. C'est une notion que j'ai appris jeune qui me donne un avantage en reportage. Et dans le reportage, pour moi, il y a une part très importante de portrait. C'est un peu avec cette espèce de moule, pré-moule que j'ai embarqué dans le projet. Et j'ai surtout embarqué parce que j'ai beau faire des photos qui s'apparentent davantage à une photo que je trouve fait très chic. On tombe sur la page... C'est quoi le numéro de page? Bon, on tombe sur cette photo-ci qui a été précédée de ça et qui est suivie par ça. Vous avez vu le rapport de contraste, j'espère? J'ai plus l'habitude de photographier ça pour payer le loyer, mettons, à titre d'exemple. Et tout le reste manquait aux cordes de mon arc. Je vis plus pour ça, en fait, fondamentalement. Et comme il y a des coups au choix, j'ai souvent payé mes choix. M'investir dans ce travail-là et le voir aboutir au bout de 3 ans, c'est la facture. La monnaie viendra de ce que ça peut apporter. Le change que je vais laisser à la caisse, c'est ce que ça va pouvoir apporter. J'ai aimé que Michel me propose d'embarquer car je sentais chez lui une absence totale d'entrain, de l'ego ou d'espoir sensationnaliste dans ce que l'ego peut faire dans une vie pour laisser ou non des traces ou simplement apporter quelque chose. Il y a des notions d'altruisme, de générosité, d'humilité là-dedans. À toute fin pratique, l'argument principal, c'est justement qu'on ne voulait pas ça, sensationnaliste. Je déteste la photo sensationnaliste, j'en ferai jamais pour deux scènes. Surtout que deux scènes, ça paye pas grand-chose. On va d'ailleurs retirer les scènes de la circulation de toute manière. Ça serait vraiment puéril. Et cette approche anti-sensationnaliste me convenait parfaitement parce qu'il s'agissait vraiment pour moi d'aller à la rencontre de l'autre comme prérequis. J'ai un petit background psychologique au sens où j'ai beaucoup aimé lire en psychologie, mais je m'arrête là pour pas me mettre les deux pieds dans la bouche. Donc, j'avais un engouement, si on veut, psychosocial à provoquer ces interactions, ou pas à y provoquer, excusez-moi, pas du tout, à y répondre de par le fait que j'étais invité à chaque fois. On me briefait un petit peu sur la situation de la personne et peut-être quelques précautions à prendre quand on sait notamment que certains torturés peuvent avoir éventuellement été médico-légalement photographiés peu de temps après un trauma d'une importance qui nous est à peu près impossible à imaginer qui que ce soit ici. Moi le premier, il y a des précautions à prendre, à savoir d'entrée de jeu si il y a un problème avec la caméra. Je suis quand même pas intervenant, mais bon, je le suis à ma manière de témoignant. C'est un des mille et un aspects qui font que j'ai un peu de mal à trouver mes mots de non-académicien pour regrouper tout ça. Je suis un peu plus... j'ai appris sur le tas. La photo, papa était photographe à son origine. J'ai pas appris de lui. Il m'a donné 2-3 trucs, puis après j'ai fait... OK, c'est beau, on appelle ça une chambre noire parce que fait noir, c'est à moi, bye bye. Fait que je me suis amusé à apprendre sur le tas. J'ai ensuite appris l'humilité. Hein. Je voulais apprendre sur le tas pour... C'est moi qui est arrivé là, tu sais. Ça, c'est impossible dans la vie, c'est complètement absurde. Et puis, tout au long de ça, ce qui a formé mon œil, c'est beaucoup rejoint par ce travail-là. Tout jeune, je voulais faire la photo de guerre. Encore idée ridicule que tous mes doyens m'ont expliqué pourquoi c'était ridicule. Et là, j'ai compris que, OK, j'ai l'ouverture, si on veut, de témoigner de choses que je trouve injustes. On connaît un peu mon Facebook pour ça. Ça aussi, ça a eu un coût existentiel de me porter à la défense de la vérité, si on veut, qui est un petit peu aussi un overstatement. Par conséquent, chaque situation était vraiment une rencontre telle que l'entend le portrait. Le portrait n'est pas une photo de face ou un plan buste, c'est un portrait. Le reportage aussi dresse un portrait, les deux allant de pair. À chaque fois, c'était très important d'aller chez ces gens-là. On me demandait, est-ce qu'on vous rejoint à un studio ou quelque chose? Non, non, je viens chez vous. Parfois, un léger silence au bout de la ligne. Et je leur explique la raison de tout ça, c'est pas pour suralimenter le message, c'est pas pour aller chercher la sensation du réalisme ou quoi que ce soit. Non. Je dois faire un portrait de ces gens-là. On doit donner un visage au texte de Michel. On va pas aller le chercher. On va aller. On va ouvrir la caméra. On va même shooter pendant qu'on parle. Et voilà. Advienne tout ce qui en pourra.
Si je puis ajouter, vous aurez compris que j'imagine que une des choses extrêmement importantes que mettait en question ce travail, c'était que veut dire aller chez quelqu'un qui n'a justement pas de chez soi, hein, qui n'habite nulle part, qui est déshabité aussi. Et d'ailleurs, je tiens à souligner tout de même, et c'est pas pour l'anecdote, mais c'est quand même parce que ça dit quelque chose du livre, plusieurs des personnes que... Je dis « nous avons photographié comme nous avons écrit les textes » d'une certaine façon, parce que c'est un tissage extrêmement complexe, extrêmement serré, mais plusieurs des personnes que nous avons été voir, que nous avons photographiées à partir avec lesquelles nous avons écrit, nous ne pouvons plus en ce moment les retracer. Ah bon? Alors, on ne sait pas où ils sont. Alors, c'est des gens qui sont justement, tu mentionnais le mot de destinérance, c'est très précisément ça.
Une petite question peut-être à vous deux, avant d'interroger, de solliciter le témoignage de Joël. C'est que chacun de ces participants, autant pour la photographie que pour les textes que vous avez écrits, demeure dans une sorte de secret. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune élaboration analytique, tu l'as dit, c'est que ce ne sont pas des cas. Le traumatisme de chacun, sa douleur, son histoire personnelle sont limités vraiment à quelques lignes. Et donc, la tragédie est inscrite dans un destin qui est encore une fois, je le répète, un peu, qui est sec. C'est donné dans sa réalité. Alors, la question qu'on pourrait vous poser, vous deux, c'est comment s'est opéré pour vous l'élaboration qui vous a conduit à choisir une image. Je vais donner une réaction personnelle, si vous permettez, tous les deux. C'est cette dame qui est tchèque. Si vous permettez, je vais vous montrer la photo. Je vais la retrouver. J'aurais dû mettre un petit post-it, là, mais on va la retrouver assez vite. La voici. Alors, c'est une histoire très belle. Si vous avez l'ouvrage devant vous, c'est à la page, c'est le problème de ça, les pages du dossier photo ne sont pas marquées.
C'est environ à la fin du premier tiers.
C'est au premier tiers environ. Alors, cette dame dans la photo nous est présentée avec tout l'environnement de ce qu'on pourrait appeler l'aristocratie Mittel-Europa, c'est-à-dire le lustre de cristal de Bohème, le crucifix aussi de la campagne tchèque. Elle montre l'image de sa mère, sans doute. Au sol, il y a un magnifique tapis. Bon, alors, évidemment, quand on regarde cette photo, on n'a aucune idée du drame qu'elle a traversé. Et donc, on pourrait le dire de beaucoup de ces photos, y compris de la photo que vous avez choisie pour la couverture, qui est la moins dramatique de toutes. Cette jeune Afghane est là, dans, on pourrait dire, le sourire et la tendresse de sa jeunesse. Et donc, on peut pas deviner. Alors, je reviens à ma question. J'aimerais vous entendre sur l'articulation entre le récit à tous égards tragique pour chacun et l'angle pour entrer dans la réalité pour produire le portrait. Est-ce que vous en avez discuté? Est-ce que vous...
C'est la part qu'on laissait à mon expérience de notion de hasard et de chaos comme oui. règle de base. Comme je le disais tout à l'heure en conversation, il y a malheureusement pour ceux qui cherchent des discours et des réponses concrètes, contrastées et directives, je suis vraiment pas le meilleur sujet parce que j'ai décidé à un moment de ma vie adulte qu'il y aurait plein de notions très critique à la survie, qui, parce que j'en sais que c'est laissé au hasard et au chaos, je vais l'accepter comme tel et ne plus en chercher de définition. La définition en est que ça se vit, point. Vous avez employé le terme production, c'est un terme que auquel je ne me suis jamais référé, ni verbalement, ni cérébralement, si on veut. Il ne s'agissait pas d'une production, il a fallu me le rappeler maintes fois. Je remercie beaucoup Julia et Julie et Michel de leur patience dans ce processus quand même de production. J'ai dû à quelques reprises être rappelé, mais pas pour les portraits. Bon, alors petit merci, petit clin d'œil. Il n'y a pas de production, c'est strictement une rencontre. Tout ce qui est de productif là-dedans, c'est de respecter que l'autre à telle heure ne peut plus être avec moi en photo et qu'il y a une heure de début et un lieu de rencontre. Tout le reste, je ne dirigeais pas, je disais pas votre bras comme ça. À tout le moins, venez un peu plus par ici, dans cette lumière. Puis le reste du temps, la personne me raconte, et j'écoute et je photographie. Puis est-ce que c'est fini? Est-ce que vous avez ce que vous voulez? Oui, pas mal. Est-ce qu'on a du temps ou vous avez quelque chose? Ah non, j'ai le temps. Ah oh, ben, on continue, parlez-moi encore de... je disais pas, bon, j'ai ce qu'il faut, merci, le journal m'attend.
Et toi, Michel?
Ah oui, j'ai deux, trois petites choses à dire là-dessus. La première, c'est Ben, voilà pourquoi je t'ai invité, Georges, parce que la photo que tu as repérée, c'est la photo d'une effectivement d'une dame d'origine tchèque, mais qui précisément a pu traverser son traumatisme. Je le dis d'une façon très générale et un peu bateau de dire les choses comme ça, mais en tout cas, qui a pu traverser son traumatisme en devenant interprète, traductrice. Et dont le père est lui-même écrivain. Et donc, la photo que tu as choisie, c'est précisément la photo de quelqu'un qui a effectué le passage et continue d'effectuer ce passage par l'écriture, par la voix dans son travail d'interprète, par la langue. C'est quelqu'un qui parle, comme tu as vu dans la fiche signalétique, plusieurs langues. Donc, il y a eu ce chaos et ce hasard, mais en même temps, il y a quand même eu des choix qui était pas toujours complètement raisonné, bien sûr, mais à chaque fois essayer de faire le moins tragique possible, de pas tomber dans le pathos, bon, ce genre de truc. Il s'agissait, on parlait de sensationnalisme au début, il s'agissait de trouver des photos qui, parce qu'il y a souvent deux photos, hein. Il y a une photo de la personne et une photo parfois de la personne avec sa famille ou avec des proches ou dans un endroit particulier pour elle. D'éléments. Alors pour cette personne, et c'est là où s'effectuait la rencontre. Pour cette personne, ce salon, c'est toute sa mémoire. Hein? C'est tout son parcours qui apparaît comme ça. Alors, ce n'est pas qu'elle, c'est une histoire de transmission. Hein? C'est une histoire de transmission. Et je répète, parce que c'est extrêmement fondamental, c'est, voilà, nous avons été soumis à quelque chose qui... un processus de déstructuration familiale, de désintrication, de déliaison. Et cette photo-là condense un désir de liaison à travers les langues et à travers son propre l'espace qu'elle a recréé ici. Voilà.
Si vous voulez, vous pouvez la contraster sur ce portrait-ci qui, pour moi, a été le plus... c'est d'abord l'histoire qui m'a le plus touché. Mais c'est une histoire qui est tragique de bout en bout, mais le portrait est fait dans un milieu où il y a c'est un dénuement absolu. Voilà. Écoute, on va demander peut-être à Joël de nous parler un peu. Joël, merci d'être là, merci d'avoir accepté de nous dire quelques mots, peut-être en rapport donc avec le livre de ton ami.
Bon, merci Georges, merci Michel et merci Henri. Écoutez, j'étais très touché par l'idée de commenter ce livre, d'abord pour une première raison, c'est que j'aurais aimé que ma mère soit dedans. Je lève la tête de temps en temps, là, et je vois des gens qui sont dans cet ouvrage, et j'ai quelques difficultés à les regarder. Il y a comme une espèce d'intimité. Entre ce regard que nous échangeons et le regard qui a été fixé par le photographe. Il y a monsieur, il y a quelques personnes ici, et ça me touche beaucoup parce que j'aurais pu y voir ma mère. Pourquoi ? Parce que je suis un fils de réfugié. Nous sommes arrivés au Canada, j'avais une dizaine d'années, chassé par la dictature des Duvaliers. Et donc, ce livre est pour moi très poignant. D'autant que je travaille aussi comme Michel dans le même domaine, c'est-à-dire que je vois dans une clinique le samedi des réfugiés, ce que j'appelle des égarés, pour reprendre le titre d'un ouvrage célèbre. Et ces égarés m'ont beaucoup apporté, d'ailleurs sur moi-même et sur cette idée du deuil impossible. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai aimé de ton livre, c'est la capacité donc de cette reconstruction de l'identité à partir d'un traumatisme délabrant, et que cette reconstruction se passe dans ce que tu proposes comme un nouveau paradigme de l'exil, au-delà de celui par exemple classique d'Ovide par exemple, hein, chassé et qui en perd son latin parce que victime d'injustice, etc. Exil aussi puisque l'actualité nous y ramène, exil de Mahomet qui doit quitter la Mecque pour Médine, réfugié lui aussi, et on voit aujourd'hui ce que ça provoque encore ce matin. Exil aussi du Christ, puisqu'il y a dans ton livre un très beau psaume, le psaume 7, qui est cité. J'ai presque envie de vous lire ce psaume, puisqu'il est si poignant et si beau, et ça dit sur le même jeune homme d'ailleurs que tu as choisi, Georges. Le psaume 7 qui est chanté par David à Yahvé, qui dit ceci: que l'ennemi affûte son épée, qu'il bande son arc et la prête, c'est pour lui qu'il apprête les engins de mort et fait de ses flèches des brandons. Le voici en travail de malice. Il a conçu la peine, il enfante le mécompte. Il ouvre une fosse et la creuse, il tombera dans le trou qu'il a fait. Sa peine reviendra sur sa tête, sa violence lui retombera sur le crâne. Je rends grâce à Yahvé pour une justice. Je joue pour le nom du Très-Haut. Ce rappel de la religion dans ton livre montre bien l'importance de ces questions de mélancolie, de deuil et de perte d'objets. L'exil que tu nous fabriques, je pense, à travers ces témoignages et aussi à travers ces très belles photographies très, très touchantes, c'est un paradoxe particulier, puisque le sujet de la perte est en même temps l'objet perdu, avec donc une grande difficulté. Le pays me manque, mais je manque aussi au pays. Il y a un passage où les miens me manquent, mais je manque aux miens. Et donc, il y a là, au-delà d'une culpabilité, au-delà d'une perte, il y a quelque chose d'impossible à régler, puisque ce n'est pas la mélancolie, ce n'est pas le deuil non plus, pour parler à la manière freudienne. Ce qui m'a frappé aussi dans ces vignettes cliniques, c'est qu'elles me font penser aux vignettes cliniques de Gatien de Clérambault, le psychiatre de Lacan. Clérambault était un psychiatre, vous connaissez son histoire, d'ailleurs photographe, ce qu'il fait. Photographe en même temps, on connaît sa passion pour les étoffes. Et Clérambault était ce psychiatre qui a formé Lacan, mais qui aussi a comme particularité d'avoir écrit des notes cliniques, des vignettes aussi brèves que les tiennes. Je ne sais pas qui les a concoctées, mais elles sont extraordinaires, parce que Clérambault pouvait donc en quelques lignes, il était psychiatre des urgences, si on peut dire, ce qu'on appelle du tout venant, à la préfecture de police de Paris, où on ramassait quantité de réfugiés internes, en fait, quantité d'exilés, de déracinés, et qu'on emmenait le soir à ce qu'on appelait au dépôt. Et Clérambault écrivait en quelques lignes des vies comme cela. Et je vous propose, si ça vous tombe sous la main, de lire un peu ces vignettes qui restent des bijoux cliniques d'une description d'une vie en quelques lignes. Et c'est le sentiment que j'ai eu, Michel, permets-moi de te dire que tu es vraiment très, très fort pour dire en quelques lignes des vies. Et c'est la brièveté, la concision, toute très 19e siècle presque, très précise de ces vies qui m'ont également beaucoup touché dans la forme de ton propos. On y voit aussi passer des faux selfs, des selfs grandioses, pour parler un petit peu. Il y a des grandiosités, il y a des filiations, par exemple ce jeune homme de Guinée dont le père a été assassiné par empoisonnement, qui revient sur les traces du père pour essayer de savoir les circonstances de sa mort. Eh bien, on voit passer là aussi obligations de retrouver des figures paternelles que tu es pour eux, peut-être, je pense, dans l'accueil de ces figures. Et de plus, il y en a un aussi qui vit l'exil comme une castration, mais une véritable castration, parce que l'exil passe par l'humiliation, la déchéance sociale, de se retrouver dans des promiscuités, d'avoir perdu des postes, d'avoir perdu également des avenirs, d'avoir perdu des visions, des joies et des odeurs. Il y a aussi cette humiliation profonde de se retrouver dans des conditions, notamment des figures paternelles qui se retrouvent sans travail. il y a aussi le travail psychique, mais il y a le travail tout court qui est une garantie de ce travail psychique. Et donc, là aussi, on voit passer de ces figures, il y en a un qui a perdu un bras. Hein, on lui a coupé un bras carrément dans une de tes vignettes où il a été torturé, blessé, une fracture ouverte qui s'est infectée, ça finit par une amputation. Et on voit combien cette amputation littérale, réelle, dans le corps, traduit en fait des amputations massives de ces hommes et de ces femmes qui perdent tout. Et j'ai beaucoup aimé la Tchèque, hein, qui, elle, ne perd rien, parce qu'elle elle a une tradition, alors c'est comme ça que la littérature sauve. C'est une façon de... Hein, elle a une tradition littéraire très forte. Elle est russe par son père, tchèque par sa mère. Et elle subsume tout ça par un travail sur les langues, un travail de passage, un travail de... elle devient interprète en restant dans ce que j'appelle une espèce de comtesse de l'exil. Hein. Il y a un aspect d'aristocratie où l'exil devient un plus même, hein, etc. L'idée de ce livre finit pour moi sur la question de la religion, parce que j'ai cité ce psaume qui m'a frappé dans le corps de ce livre. C'est une mère qui donne ce psaume en, j'allais dire, en viatique à un fils qui a perdu son père. Alors, c'est un psaume très beau, comme c'est la partie la plus poétique, à mon avis, de la Bible plutôt que le Cantique des Cantiques. Mais en fait, ce qui me touche aussi, c'est l'idée que la religion aussi, comme travail du deuil, a pu aider beaucoup de ces réfugiés qui viennent de pays où la religion a encore beaucoup de prégnance, des pays musulmans, des pays africains, de certains pays asiatiques, et qui débouchent dans un no man's land religieux particulièrement pathétique au Québec notamment, et qui font face à ce vide et qui reviennent, hein, on voit chez les musulmans, qui reviennent à cette pratique religieuse et où la communauté d'origine devient, leur contact devient ambivalent, puisque l'ami d'origine est témoin de la déchéance sociale, hein, et en même temps est un garant d'identité. Je crois qu'il y a là quelque chose d'important qui traverse ce texte, et puis je ne puis que vous féliciter tous les deux. Le travail du photographe est fabuleux, avec énormément de, j'allais dire, de tact, hein, sur la douleur d'autrui, avec un regard à la fois proche et distant, qui travaille sur les lumières, sur les étoffes, qui est assez remarquable. Je vous remercie tous les deux.
Merci beaucoup, Joël. Peut-être que Michel, tu voudrais réagir au témoignage de ton ami.
Non, je vais te laisser, parce que bon, je vais parler 2 heures. Donc.
Pour les personnes qui sont debout, là, il y a 2 places assises, je vous dis ça. Là. Madame, je vous vois debout. Là. J'aimerais dire quelques mots personnellement sur le livre du point de vue qui est le mien. Une des choses qui va beaucoup susciter l'intérêt du lecteur, c'est l'arrière-plan, presque une trame philosophique de cet ouvrage. C'est très important du début à la fin. Non pas que cette trame soit vraiment cachée en sous-œuvre, non, je dirais qu'elle est assez explicite, en particulier dans l'appareil de référence, le titre d'abord, hein, qui nous vient tout droit des thèses sur la philosophie de l'histoire de Walter Benjamin. La traduction n'est pas la traduction habituelle. En général, on traduit l'instant du péril, mais je trouve que l'instant du danger dit très très bien le terme allemand Gefahr, il n'y a pas de problème. C'est vraiment de ça dont il s'agit, c'est le moment où le danger se montre. Et donc, mais cette trace de Benjamin n'est qu'un indice de tout ce qui nous attend à la lecture des très beaux textes que tu as vraiment mis en forme, Michel, je tiens à le dire. D'abord, le premier signal, c'est évidemment la référence omniprésente à la pensée de Jacques Derrida. qui très certainement est, on le voit pour toi, une source d'inspiration importante, mais qui est aussi un défi. Car Derrida, bon, au moment où, nous le savons, s'est intéressé lui-même, on l'oublie toujours de manière concrète, au statut des villes-refuges en Europe, quand il est venu ici en 1991, il nous avait entretenu de la possibilité que Montréal devienne une telle ville-refuge. Ensuite, en 1997, il est revenu, comme vous savez, et ça, ce projet n'avait pas beaucoup progressé, mais Derrida s'est impliqué pour les sans-papiers, il a multiplié les interventions et tout. Et donc, quand on lit son livre, il y en a plusieurs, mais il y en a un en particulier qui traite de cette question, son travail sur l'hospitalité avec Anne Dufour-Mantel, on voit qu'il y a une aporie, c'est-à-dire que Derrida dit « si nous avons l'hospitalité, cette hospitalité doit être inconditionnelle. Nous ne disons pas telle chose que oui, on va vous ouvrir la porte du Canada, mais à la condition que vous ayez 100 000 $ dans votre compte en banque. Ou oui, on va vous ouvrir la porte du Canada, mais à la condition que vous correspondiez à un créneau d'expertise qui, que nous avons identifié, et ainsi de suite. » Donc, pour Derrida, il y a telle chose qu'une humanité dont on sent la préoccupation dans le livre de Michel et de Charles-Henri, qui est véritablement cette humanité qui, tu l'as décrite, qui souffre, qui est vraiment dans une situation impossible. Et l'aporie se constitue, bien sûr, on peut le deviner, du fait que l'inconditionnalité de l'hospitalité est impossible politiquement. Nous ne pouvons pas, aucun pays ne peut, ne peut dire ben, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus telle chose que la frontière, la citoyenneté, les droits, le territoire national et ainsi de suite. Donc, on est dans une situation qui, sur le plan philosophique, est une immense interrogation vis-à-vis ce devenir que tu as décrit au début. Tu cites des chiffres sur les millions de personnes qui sont actuellement dans un statut d'apatride ou de réfugié ou en demande d'asile. C'est vrai, le monde change sous nos yeux de la façon la plus vibrante et nos structures nationales, Derrida, c'est comme ça qu'il l'a dit, donc ne sont pas aptes, n'ont même pas développé le questionnement nécessaire pour accueillir ce qui serait une hospitalité pensée. On ne parle pas d'une hospitalité conditionnelle, encore une fois, d'une hospitalité inconditionnelle. Donc, j'aime beaucoup, Michel, dans ton livre, cette ouverture très généreuse au questionnement le plus radical concernant l'autre, la différence, l'accueil de l'altérité, un accueil qui doit être absolument complet, total. L'autre chose sur le plan philosophique, mais là on touche la philosophie de la psychanalyse, parce que tu cites Pierre Fédida, tu en cites quelques-uns, c'est évidemment la question de l'accueil, c'est-à-dire qu'au-delà de l'hospitalité, il y a la question de l'écoute. Les personnes qui se confient à toi et que tu es en devoir en quelque sorte d'aider, tu n'as pas de compte à leur demander, tu n'es pas là pour les juger, tu le dis très bien. Et donc, nous sommes tous dans cette situation à comprenant ce qu'est l'attitude analytique. Et ce livre est une leçon pour le profane. Moi, je suis profane, je le déclare. Le profane en face de l'analyse. C'est-à-dire que nous comprenons s'il faut en faire la démonstration à tous les imbéciles qui aujourd'hui font leur baraque à frites en détruisant la réalité de l'efficacité de l'analyse, de sa nécessité dans nos sociétés. Ce livre est la démonstration de cette nécessité, c'est-à-dire à l'écoute de l'inconscient, à l'écoute de tout ce qui se joue dans le trauma et dans la blessure. Une des références principales de ce livre, je dois de la connaître à mon ami Nicolas Goyer qui est aussi cité dans ce livre, c'est Jeannine Altounian qui, dans plusieurs bas de page et dans le texte lui-même, intervient à partir de son expérience arménienne et dont nous comprenons très bien, elle est psychanalyste aussi, dont nous comprenons très bien précisément la portée, la percée dans ce travail. Donc tout ça est d'une énorme richesse. Il y aurait beaucoup de questions à poser sur l'avenir, c'est-à-dire comment vous percevez finalement parce que bon, pour vous c'est un travail tous les deux, mais il y a aussi un horizon. Nous sommes dans des sociétés qui sont au total assez fermées ou qu'on pourrait regarder d'un autre point de vue comme des sociétés très ouvertes. Le Québec accueille entre 40 et 50 000 immigrants nouveaux chaque année, mais ce n'est rien par rapport à ce que serait la pression démographique. Moi, je vais citer juste un souvenir personnel. J'ai fait quelques voyages au Moyen-Orient, mais celui qui m'a le plus touché, c'est la Syrie. Et quand je pense à la souffrance syrienne aujourd'hui, mon voyage, c'était 2002, donc essayez de vous représenter, c'était un an après 2001. Eh bien, en Syrie, sachant que j'étais Canadien, on me disait toujours, est-ce que vous savez quelle ambassade du Canada, quelle ambassade à Damas, pardon, est la plus fréquentée, c'est l'ambassade du Canada. Tous les Syriens, s'ils en avaient la possibilité, quitteraient la Syrie. Tous les Syriens quitteraient la Syrie. Et j'étais avec ma fille, qui a reçu un nombre incroyable de demandes en mariage durant ce court voyage. Il fallait quitter la Syrie. Il y a cette pression dans la situation d'oppression qui était très, très difficile. Si je rappelle ce souvenir, c'est juste pour penser que le spectre où se présente à nous ce grand déplacement est un spectre qui n'a pas besoin de se justifier par un traumatisme particulier. Il y a des souffrances indicibles qui sont de toute nature et qui ont à voir précisément avec la permanence et l'extension, comme le dit si bien Jacques Derrida, d'une injustice généralisée. Tu l'as décrit d'ailleurs dans ton livre, Michel, par une phrase que j'ai trouvée, je ne l'avais jamais vue comme ça, en décrivant l'effet du capitalisme sur ces déplacements, sur ces migrations, tu parles d'un esclavagisme au service du capitalisme généralisé, parce que bon sûr, il y a tous ces migrants, comme par exemple, on les voit, les Pakistanais qui travaillent dans les Émirats arabes et ainsi de suite, et qui ils ne font pas ça pour le bonheur et le plaisir, ils le font tout simplement parce que la misère économique les y conduit. Alors, je veux vous rendre sensible en te remerciant, Michel, à cette dimension qui me semble très très forte de l'éthique qui est requise de nos sociétés aujourd'hui dans la qualité de l'accueil qui, à mon avis, demeure médiocre face à toutes ces personnes. Alors, nous avons un peu de temps, peut-être une dizaine de minutes, pour vous inviter à prendre la parole et à poser des questions à nos invités. Je serais très heureux si vous acceptiez de le faire. Il ne faut pas vous gêner, il y a un micro là, mais si vous n'en avez pas besoin ou ne le souhaitez pas, vous pouvez tout simplement poser des questions. Alors la parole est à vous, allez-y. Qui voudrait briser la glace et poser une question? Oui, allez-y, monsieur.
Alors, lorsque j'ai vu le livre au départ, je n'ai pas compris le sens de la photo. Je trouvais ça presque trop beau pour le sujet et la réalité que j'étais pour entendre ce soir. Et lorsque le photographe dit, ou Michel le dit, il y a tout le temps deux photos qui dans le livre. Et là, j'ai ouvert la page pour voir la femme avec son enfant. Et là, on comprend c'est qui cette personne-là. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'espoir probablement dans le travail de Michel et du photographe. Parce que je regarde ensuite la description de Mme Dachty. Elle est citoyenne, elle a refait sa vie, puis c'est des enfants qui sont nés ici. Alors, ma question, c'est un peu dans le sens, est-ce qu'il y a beaucoup d'espoir à travers ce que vous faites? Parce que je lis aussi à la fin de la dernière phrase du Alando, c'est marqué « Or, chacun des humains qui a accepté de paraître ici sait qu'il pose un geste important pour la collectivité. C'est une sorte d'interprétation positive, dans le même sens que les photos que je viens de voir. Alors, est-ce que c'est une réalité, ça aussi, qui vous habite? »
Moi, oui. Pour vraiment rester aussi flou que je l'ai été jusqu'à cinq derniers... Non? Ah, bon, OK, j'ai un nouvel auditoire. Je suis compris. Moi aussi, je sors de mon espace de passage, peut-être. J'ai le goût de répondre, quand j'appuie sur le bouton, il y a de l'espoir. Ça peut vraiment être interprété de toutes sortes de manières. Je pense que c'est peut-être la seule manière que je pourrais avoir de répondre. La notion d'espoir est très importante dans mon vécu. Je suis un peu transi ce soir. En fait, c'est un petit peu quand même la culmination de tous ces investissements momentanés de chair et d'esprit, de présence, de respect, de se comprendre malgré X, Y, Z barrières, et trois alphabets seraient quand même insuffisants pour se comprendre. J'ai vécu des trucs vraiment extrêmement forts et vivaces, et j'en reste marqué. Il y a même des moments où j'en ai souffert, personnellement, psychologiquement, socialement. Pour moi, ça faisait partie du processus. Je suis pas allé faire une shot pour la ramener au journal. Jamais, jamais. Qu'il y ait... quand je vais quelque part faire des photos, je suis un petit peu comme un petit cul qui vient d'avoir son premier Kodak puis qui comprend pas que le film, ça coûte quelque chose. Ça a été mon premier... ma première chicane avec mon père, avec mon premier Kodak. Aujourd'hui, c'est plus vrai. J'étais un peu comme ça. C'est un peu dans la construction... comme le tissu de la vie de ces gens-là, il n'y en a pas un de pareil et chacun a un parcours. Et voilà. Ben, le livre aussi a un peu été comme ça. C'est un choix qui est venu tant des besoins. Hein, vous savez, on demande au photographe, bon, on va faire ça. Puis bon, on se dit, on ne l'a pas choisi pour rien. On est confiant, puis on a hâte de voir tout ça. Puis ben, des fois, on voit des trucs que lui fait juste exprimer sans chercher à transmettre quelque chose ou en se disant... pourvu qu'on remarque puis que j'influence la structure du livre. Vraiment, toute une simple logique articulée entre texte et photo. Et moi, j'allais là-bas et je faisais des photos de tout. À même la conversation. Parfois, à d'autres moments, je m'arrêtais. Donc, avec beaucoup d'espoir et d'ouverture et certainement une bonne dose de naïveté, c'est important de conserver ça dans la vie.
Une naïveté et espoir.
Je vais seulement ajouter une chose très, très précise. D'abord, on a, jusqu'à la toute fin, on a hésité sur la photo de couverture. Parce qu'effectivement, c'était... parce que les enjeux libidinaux hein, de tout ça sont extrêmement importants. Mais je pense que la raison... Je ne vais pas jouer à l'interprétation, surtout pas. Mais je pense que la raison, ou en tout cas le motif qui nous a guidés un peu inconsciemment... c'est que cette jeune fille nous regarde. Et ça, c'était extrêmement important que quelqu'un venant de cet univers nous regarde, nous, plutôt que nous la regardions. Et c'est en même temps une invitation au regard, puisque ce voile qui, est voilé, qui joue le jeu du voilement-dévoilement. Et qu'est-ce qu'une jeune fille peut bien... dire de qui est effectivement radieuse et tout, qu'est-ce qu'elle peut bien dire en nous regardant de l'instant du danger, de quel péril s'agit-il?
D'autres questions? Philippe Battista? Va au micro.
Philippe Battista. Moi, ce qui attire mon attention d'abord et avant tout, c'est le titre, justement. Parce que je trouve que le titre révèle vraiment beaucoup de dimensions et je peux le comprendre d'autant plus que moi-même j'ai fait de la prison politique au Portugal dans le temps de Salazar, alors je peux très bien comprendre toutes les dimensions qui se trouvent dans ce titre et le titre est d'autant plus intéressant ou fondamental qu'il laisse ouvert de tout le champ à toutes les interprétations possibles. Et de ce point de vue-là, le photographe, et je ferai un lien très, très précis avec les photos que je trouve vraiment remarquables par cette capacité de dire au-delà des stéréotypes, de dire la réalité telle qu'elle est, et sans jugement préalable. Et de ce point de vue-là, je trouve que la vraie question, pour moi, fondamentale, et pardonnez-moi la question philosophique que Georges a posée tout à l'heure, me semble être très pertinente par rapport à ce regard qui demeure toujours là, présent, et qui amène toutes sortes de réponses qui pourront venir selon les différentes expériences. Et pour finir, je ne veux pas m'allonger plus là-dessus, qu'une des questions par analogie avec mes étudiants en philosophie sur lesquelles je revenais souvent, c'est ces mêmes étudiants comme vous, aujourd'hui vous vous battez pour des questions très, très spécifiques ici au Québec, mais sachez qu'ailleurs, des jeunes comme vous, la grande question qui se pose, c'est si demain ils pourront sortir quelque part où ils pourront vivre encore.
Bravo. D'autres questions? Tu voulais réagir à ça peut-être un petit moment?
Je pense qu'en soulignant à nouveau la question de l'hospitalité et de l'aporie de l'hospitalité, c'est bien là justement où le juridique, le politique, le psychanalytique se rejoignent. Et cette mise en question, François Crépeau qui est ici en sait quelque chose dans son travail sur ces questions de façon très très précise. Ce fait que l'instant du danger souligne précisément l'aporie dans laquelle on est, à la fois la nécessité du temps de reconstruction après la dévastation, mais en même temps l'instant de vacillement et de décision qui est définitif, absolu. Voilà.
Peut-être un petit mot sur la question de l'hospitalité. Peut-être un petit mot sur la question de l'hospitalité. Oui, tout à fait. Je voudrais revenir un peu sur le commentaire de Georges à propos de l'importance de Derrida dans ton travail. Et notamment en ce qui concerne les villes-refuges. Il se trouve que cette question des villes-refuges, je l'ai avec d'autres portée au sein de l'Union des écrivains du Québec, l'UNEC, pendant une bonne dizaine d'années pour tenter, suite au passage de Derrida en 91, et également du fait de nos propres préoccupations, de faire de Montréal une ville-refuge, c'est-à-dire de participer à ce réseau de villes-refuges qui était animé par Michel Salmon. Du congrès des écrivains qu'il y avait à Strasbourg. Or, il se trouve que tout avait été monté, Ottawa était d'accord, Montréal était d'accord, etc. Sauf que la charte des municipalités, des villes québécoises, fait que les villes québécoises ne peuvent pas accueillir de manière autonome un réfugié. Et donc, l'idée des villes-refuges, à l'instar des villes européennes qui sont des chartes médiévales, donc qui viennent de très loin et qui peuvent, elles-mêmes, ont l'autorité politique pour accueillir un réfugié, c'était des écrivains réfugiés qui étaient visés à l'époque, fait que malgré l'apport du gouvernement du Québec, malgré l'accord du gouvernement d'Ottawa, la ville de Montréal ne pouvait pas, hélas, accueillir de façon autonome un réfugié, alors que le budget avait été voté. Donc nous sommes retrouvés dans une situation d'une grande tristesse, après avoir travaillé de nombreuses années pour monter cette question, et voilà que pour cette raison-là, nous n'avons pas pu faire de Montréal une ville-refuge.
Oui, merci de le rappeler, Joël, j'aurais dû le faire à ta place. Tu as joué un rôle important et je le dis parce que tu m'as rappelé beaucoup de choses, et en particulier ce Parlement des écrivains de Strasbourg qui était très important, parce que bon, ici nous avons quand même un peu au Salon du Livre chaque année Livre comme l'air, toute petite chose mais qui quand même est un symptôme, un petit signe de notre intérêt donc pour intervenir dans ce champ. Josette Garon.
Alors, juste un petit mot, moi aussi, à partir de la page couverture, parce que malheureusement, j'en suis encore là dans ce magnifique ouvrage que je vais sûrement parcourir avec plaisir. Et moi aussi, c'est le titre qui m'a arrêtée. Et tu parlais de l'instant de vacillement. Et je me demandais si un des instants de vacillement qui peut être traumatique, mais en même temps la sortie du traumatisme, c'est pas au moment de la parole, justement. Dans ce sens que, pour survivre à ces traumas, très souvent, la parole et l'écoute, oui, bien sûr, oui, tu fais le signe de l'oreille et t'as raison, très souvent, ces traumas, surtout qui sont étendus dans le temps, c'est au prix de s'amputer de la parole qu'ils ont survécu, c'est-à-dire du silence, du secret. Et l'instant du danger, est-ce que c'est pas quand ils sont pris avec la nécessité, les gens sont prêts avec la nécessité de parler pour traverser le traumatisme, mais en même temps la terreur de parler, ou la terreur de se montrer, là je pense à ce que disait le photographe. Et l'instant du danger, je me disais, un des sens, en tout cas que moi j'entendais en pensant à des gens que j'ai vu qui ont été traumatisés, c'est le moment où ils ouvrent, où ils parlent, et où on écoute.
Il y a une autre personne qui a demandé. Madame, vous avez...
Je vais répondre de façon positive. Oui.
Allez-y, madame.
On va vous mettre ensemble pour conclure. Oui. Parce qu'on arrive
Je suis d'origine chilienne et je suis arrivée ici, ça fait 38 ans.
Un tout petit peu plus fort.
Pardon? Ah, d'accord. Et une des choses qui m'a intéressée énormément, c'est l'idée de traiter les sujets de la façon la plus sobre. Parce qu'on a resté, bah, je parle depuis mon expérience en tant que chilienne et latino-américaine, énormément de ces sujets. Combien d'années on s'est raconté les coups d'État, etc., etc. Mais cette idée de ne pas rester dans l'anecdote, anecdote dans le bon sens. Et ça, j'ai trouvé extraordinaire. J'ai vu le livre, je suis venue à froid. Je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait. Mon fils m'a dit, viens, parce que ça m'intéresse tout. Et ça, j'ai trouvé très extraordinaire. Je voudrais être très court. Je ne fais pas partie de ces personnes qui sont... J'ai sorti par la grande porte du Chili, même si j'étais avec un code de réfugiés après le coup d'État. Mais je n'ai pas vécu les bâtons ni la torture au Chili. Mais j'ai connu énormément de gens qui étaient torturés. Et mon frère, il était torturé d'une façon atroce. Et il était assassiné finalement. Et cette idée du silence, il n'a pas voulu jamais parler. Finalement, il est mort. Bon, je reste de ce côté-là où je n'ai pas souffert ça. J'ai souffert d'une autre façon l'exil, d'une autre façon la rupture. C'est une des ethnies qui s'est séparée. Je pense que c'est la plus grande ethnie qui s'est séparée, qui s'est divorcée. On a souffert cette rupture que je n'ai pas encore arrivé à avoir une idée pourquoi ça s'est produit. Et on l'a souffert d'une façon très... Bon, je pourrais parler longtemps, mais j'appartiens de ce côté-là et je suis très content d'avoir venu.
Merci beaucoup, madame, de votre témoignage. Hélène Corin.
Juste un mot, je n'ai pas encore vu le livre, malheureusement. Je le prends de temps en temps à mon voisin pour jeter un coup d'œil. Il me semble qu'un des défis importants auquel tu étais confronté, vous étiez confronté, Charles-Henri aussi, était à la fois de faire sentir l'aspect absolument inimaginable et incommensurable hein, de la réalité dont on parle. Bon, on parle d'espoir, il y a l'espoir, mais il y a un désespoir absolu aussi. Il y a les deux, il faut tenir les deux. Donc à la fois de faire sentir cet aspect inimaginable et terrible, il y a à la fois l'aspect commun, l'aspect d'humanité fondamentale. Et je pense que là, la psychanalyse, par l'approche que tu utilises, fait justement ressortir ce en quoi il y a aussi quelque chose de commun en ce qui se passe chez eux et nous. Et je me disais que par rapport à ça, les coups d'œil que j'ai pu jeter sur le livre, j'ai l'impression que le rôle des photographies est fondamental. Parce que quand on voit les photographies, les visages, les regards, là on est dans l'humain absolu. Là, on n'est plus dans eux, nous et tout. Et j'ai l'impression que ce tissage entre visages, personnages, pris dans leur quotidien, qui regardent, et le texte permet justement de tisser ensemble cet inimaginable, ce terrible, et ce en quoi ça nous concerne, nous comme humains aussi.
Peut-être une dernière intervention, allez-y madame, et ensuite on va donner à nos auteurs le mot de la fin.
Je suis Louise Gagné, je veux juste vous remercier pour un tel ouvrage, à la fois avec tout l'art que vous y avez mis, le cœur sans doute, mais aussi pour vous dire que moi qui en ai rencontré plusieurs dans ma vie par mon travail, je pense que c'est un grand avantage de rencontrer ces personnes de près. Et nous avons été à un moment donné 10 000 Québécois à rencontrer des gens dans les années 80. Et je souhaite que cet ouvrage se promène dans les bibliothèques pour que les uns et les autres puissent au moins le feuilleter, pour qu'ils se rappellent des bons moments et qu'on arrête de parler des autres, mais qu'on parle de nous.
Merci beaucoup, madame. Alors, un petit mot de conclusion. Michel d'abord, peut-être Charles-Henri ensuite, ou pas de conclusion ou...
Quelques mots, tu m'arrêtes.
Oui, non, je t'arrêterai pas.
Évidemment, d'une certaine façon, ce qui
Les interventions se rejoignent nécessairement. On peut faire en sorte d'essayer de faire en sorte qu'elles se rejoignent, mais elles se rejoignent. La question que tu posais, Josette, par exemple, qui est une question effectivement extrêmement cruciale, extrêmement importante sur la question de toute la dimension de la parole et de l'écoute, et ce moment de vacillement, ce moment de déplacement. Hein. Je pense que ce qui est important de comprendre, je vais le dire très rapidement, mais c'est important pour comprendre la place où je me situe en tant que clinicien. Les gens qui font une demande d'asile doivent techniquement, hein, j'entre pas dans les détails, faire une déclaration aux autorités. C'est ce qu'on appelle un PIF, un Personal Information Form, dans lequel ils racontent leur histoire et ils disent la raison, les motifs pour lesquels ils font cette demande de statut de réfugié. Or, c'est là, dans ces conditions-là, un régime de vérité qui est, je ne vais pas entrer dans les détails, mais extrêmement spécifique, où la question des événements, des faits, au sens d'une adéquation de la vérité à une certaine réalité, qui est au fond tissé de fantasmes, mais qui est quand même un certain type de réalité, ils doivent donc démontrer que leur parole est en rapport avec une réalité qu'on peut vérifier événementiellement. Alors ça, je simplifie à outrance le régime du juridique, mais il y a quelque chose là qui est un type de parole. Alors que quand ils arrivent dans mon cabinet ou dans le cabinet de quelqu'un qui les aide, je ne requiers pas ce type de vérité. Et ce qui était, que ce soit vrai, que ce soit faux, au fond, c'est pas là que ça se passe. Et ce moment de vacillement, je vais pas entrer dans les questions techniques, mais c'est ce moment où s'installe quelque chose comme ce qu'on appelle en psychanalyse le transfert. Et où là, un autre type de parole peut surgir qui s'articule à de tout autre coordonnées, hein, à des questions qui ont trait à voir finalement avec le pulsionnel. Et la question, c'est vraiment comment est-ce que ça fonctionne, le pulsionnel, étant donné l'histoire qui s'est produite. Alors, pour moi, c'est très important. Et ce qui est très important aussi dans ce travail-là, c'est que, et c'est quelque chose qui est écarté en général de ce qu'on appelle les états de stress post-traumatique avec la série des symptômes. Bon. Ce qui est très important, c'est qu'il y a toujours une dimension dans cet instant du danger, dans tout ce parcours, qui a trait à la question du sexuel tel qu'on l'entend en psychanalyse. C'est-à-dire la question du libidinal, encore là, je n'entre pas dans les détails, mais dans quelque chose qui devient audible à la faveur du transfert. Et je pense que là, il y a quelque chose que la psychanalyse peut apporter de très, très, très spécifique à ce travail de culture que représente la clinique psychanalytique auprès des gens qui ont été victimes de violences organisées. Dans la mesure où, et là c'est l'apport de Derrida questionnant la psychanalyse, Derrida dit que la psychanalyse a, si elle a, c'est l'avis de Derrida bien sûr, si elle a une des particularités, c'est d'avoir démontré que chez l'être humain, il existe quelque chose tel que la cruauté sans alibi. Et donc, qui est vraiment quelque chose qui est au cœur du psychisme, dans le noyau dur de l'être. Et je pense que, comme clinicien, à la faveur du transfert, il y a quelque chose qui est mobilisé, évidemment, je dois dire, de ma propre cruauté, d'un questionnement sur ces enjeux-là. Et j'en ai parlé longuement avec Charles-Henri. Hein, c'est quelque chose qui, aussi dans le travail photographique, était nécessairement en jeu. Dans la mesure, d'ailleurs, où ce qui m'a convaincu de travailler avec Charles-Henri, c'est un mot de lui un jour. J'ai demandé, mais ton travail de photographie, de quoi est-ce qu'il s'agit? Parce qu'au fond, pourquoi est-ce qu'on travaillerait ensemble? Et il m'a dit, cette phrase, c'est peut-être pas exactement comme ça, mais c'est le mot qui est le plus important. Je tiens à des photos qui déchirent. Et je pense que l'instant du danger, c'est ce moment de déchirement pulsionnel qui s'active sur la scène transférentielle. Voilà.
Merci Michel. Cette phrase, je tiens des photos qui déchirent, et c'est la phrase qui ouvre le livre. Ah, peut-être un dernier petit mot, Charles-Henri.
Il me permet bien l'enchaînement avec cette citation qui, pour moi aussi, demeure un peu floue, mais on s'entend sur ce mot-là. Et du coup, je m'auto-défends contre moi-même parce que je pense que parfois mes mots peuvent tomber dans des oreilles et peuvent facilement avoir d'autres échos que mes vérités à moi. J'ai pas une propension ou un besoin à faire des trucs qui impliquent la déchirure, mais plus je cherche à, si on doit apprécier, regarder ce que je fais, faut que ça invoque un déchirement avec une habitude, avec des clichés, avec ce à quoi on s'attendrait, par exemple. Et par rapport à ça, l'instant du danger, tant qu'à moi, se passe à partir du moment où la situation éclate et se termine quand la personne dit « je peux enfin commencer à faire mon deuil ». Contraire, pour utiliser une image populaire en photographie, l'instant décisif, bon, clairement, c'est une fraction de seconde. Je pourrais m'étendre longuement pour vous indiquer le contraire, mais bon, comme prenons en cela l'opposition au titre du livre qui n'est pas comme ça. Par contre, c'est facile d'accepter ou de refuser quelqu'un comme ça, et ça va, sa vie aussi va basculer comme ça. Mais cet instant décisif, tant qu'à moi, cette expérience m'a appris qu'elle partait de l'éclat et se clôturait le jour où il y avait possibilité de commencer la démarche du deuil, c'est-à-dire d'avoir un peu fermé une partie de la fenêtre sur cette situation-là. Tant qu'à moi, l'instant du danger est une... c'est un moment d'une chronicité étendue.
Merci beaucoup, Charles-Henri. Alors, au moment de clore cette rencontre, je remercie bien sûr les auteurs d'avoir accepté de venir nous parler et tout. C'est quand même pour eux, c'est toujours, quand on lance un livre, c'est toujours en même temps une chose plaisante, mais aussi quelque chose qui nous coûte. On ne sait pas quel destin il est promis. Je remercie Joël Desrosiers d'avoir aussi accepté de venir nous livrer un très beau témoignage. Je salue dans l'auditoire François Crépeau. Excuse-moi François, je ne t'avais pas vu au début. François, excuse-moi, ça va heurter ta vanité, mais c'est vraiment... François joue un rôle important puisqu'il occupe des fonctions capitales, si j'ose dire, au Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies. Je suis certain que si tu avais été ici à la table, ton témoignage aurait été très important, et j'espère qu'il y aura des occasions où on pourra le solliciter. Merci de ta présence. Je voudrais maintenant inviter Madame Julia Duchâtel, donc des Éditions du Passage, à nous dire quelques mots. Allez, peut-être prenez le micro ici ou celui-là, n'importe lequel. Ouais.
Simplement pour vous remercier tous d'être venus, d'abord les participants du livre et ensuite tous d'avoir pris le temps d'écouter, et j'espère qu'on va pouvoir continuer à échanger. Et sur une note très pragmatique, vraiment la discussion sur la couverture m'a vraiment fascinée. J'aimerais remercier Léa qui a fait ce livre qui est juste ici, et Julie et Simone qui sont là-bas, vraiment. J'espère qu'on va continuer cette discussion, et sur une note encore plus pragmatique, une petite définition de l'hospitalité. On vous invite à venir continuer. Voilà, merci.
Je crois que Charles-Henri voudrait absolument dire un dernier petit mot.
Allô, allô. Est-ce que je suis là? Oui, je suis là. Bon, ça me prend un micro, des fois. Moi, je me remercier tout le monde, les circonstances de la vie, cette équipe qui m'a approché, qui m'a aimé, qui m'a épaulé, qui m'a en fait jamais dirigé. Wow, merci aussi pour ça. C'est une opportunité incroyable que j'ai caressée. Je ne sais pas si je fais un mauvais choix de mots. Que j'ai caressée pendant 3 ans. Oui, bien sûr, c'était en noblissant au fur et à mesure. Et effectivement, je m'en suis flatté le blason à chaque fois à me dire « Wow, quelle chance inouïe ». Et la pensée tout de suite qui venait après, c'était « Merci aux circonstances pour ces gens-là qui ont bien plus que le courage, l'humilité de s'être prêté à l'expérience. Sur ce, c'est pas parce qu'il est écrit « danger » que c'est un colis suspect. Ouvrez-le, s'il vous plaît. J'ai cru comprendre.
Alors, vous êtes tous invités à prendre un verre de vin.